France Musique.
Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Jean-Guyenne Queyras, je suis né le 11 mars 1967 à Montréal. Je suis violoncelliste.
Jean-Guyenne Queyras, à quel moment c'est devenu un métier d'être violoncelliste ou est-ce que c'en est un ?
Je pense qu'en fait, effectivement, on entre avec ce... Allez, on va appeler ça cette activité musicien, cette vie, cette vocation musicien. On entre finalement en biais dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est normal quand on est étudiant déjà d'être invité par certains dans un festival pour participer à un concert. On donne déjà des concerts en tant qu'étudiant, puis petit à petit les premiers sont pas payés, puis on est payé, on soit son premier cachet, on est content. Bon, et puis c'est vrai qu'on peut pas vraiment déterminer où est la ligne de fracture entre les études et la vie professionnelle. Alors, il se trouve que chez moi, finalement, d'une certaine manière, il y a une ligne très claire. C'est le passage de la fin de mes études aux États-Unis, à New York, avec l'entrée immédiatement, dans la foulée, à l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez. Ça, c'est pas décidé, c'est pas moi qui l'ai décidé. Il se trouve que ce poste à l'intercontemporain s'est libéré quand j'étais dans ma dernière année d'études à New York. Il se trouve que l'un des professeurs de mon frère Pierre-Olivier, Jacques Guettem, m'avait entendu dans différents concerts. Et il se trouve que Jacques Guettem était à l'époque violoniste à l'ensemble intercontemporain. Et donc, quand ce poste est libéré, il nous a contactés. C'est lui qui a pris son téléphone et a dit « Il faut que Jean-Guyenne se présente, je pense que c'est quelque chose pour lui. » Je suis venu spécialement à Paris pour faire l'audition pour l'intercontemporain et j'y suis rentré. Et j'ai demandé à Boulez, à ce moment-là, directement au moment de l'audition, je lui ai dit, écoutez, je suis tellement heureux d'avoir ce poste, mais est-ce que je pourrais terminer? Je sentais que je voulais passer encore mes derniers mois auprès de Tim Eddy et profiter de son enseignement jusqu'au bout. Et donc, Boulez a dit, d'accord, vous commencerez à l'été. J'avais 23 ans. Et Boulez, presque toujours, recrutait les musiciens plutôt jeunes. Enfin, presque tous sont rentrés à l'intercontemporain quand ils avaient entre 18 et 25 ans. Et il disait très souvent parce qu'il voulait avoir la possibilité encore de former des musiciens, de travailler avec eux sur leur approche de l'interprétation, etc. Et puis il pensait aussi, tout simplement d'un point de vue pragmatique, que pour pouvoir assimiler tous ces nouveaux langages qui vous arrivent dessus dans ce contexte, c'est mieux, c'est plus facile et plus réaliste de le faire quand vous n'êtes pas encore totalement formé, mais encore ouvert, plutôt que d'être déjà complètement formaté. Donc du coup, je suis rentré de New York en juillet 90, et en août 90, je faisais mes premières répétitions à l'IRCAM, dans le sous-sol, et pas avec n'importe quoi, avec Répond de Boulez. Donc, il faut savoir, Répond, pour ceux qui n'ont jamais entendu cette pièce, c'est une immense construction psychédélique de 50 minutes, dans laquelle tous les instruments sont, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs chez Boulez, dans pratiquement toutes ses œuvres, il vous emmène aux limites et même un petit peu au-delà. Il faut voir la partition de Répond, parce que ça, rien que ça, ça vaut la peine déjà. On voit que c'est une espèce de folie, quelque chose qui nous emmène extrêmement loin. Premier contact avec l'univers de Boulez, de l'ensemble intercontemporain et de toute cette extraordinaire chose qui se passait à Paris et qui s'appelait l'IRCAM, j'étais assis au milieu d'une trentaine de musiciens Et j'entendais ces sonorités que j'avais jamais entendues, qui fusaient à droite, à gauche, plus l'électronique, plus ça. J'ai été plongé tout de suite, voilà, dans le bain de ce foisonnement créatif de l'intercontemporain, et c'était quelque chose d'extraordinaire.
Jean-Guyenne Carraz, vous avez 23 ans. Cet amour pour cette musique, il est né en étant à l'ensemble intercontemporain ou il était déjà présent avant? Parce que c'est pas complètement un hasard. C'est pas comme si vous rentriez dans n'importe quel orchestre symphonique. D'abord, c'est aussi un ensemble, l'ensemble intercontemporain, où il n'y a que des solistes. C'est toute une approche de la musique qui est particulière.
C'est vrai que, en fait, la musique contemporaine, c'est quelque chose qui m'avait toujours parlé, absolument. De par mon tempérament, curieux et toujours à la recherche de, je sais pas, de choses nouvelles. Donc j'avais toujours été un petit peu le violoncelliste pendant mes études. J'étais très souvent celui vers qui se tournaient les compositeurs pour les étudiants en composition. Par exemple, s'ils avaient besoin d'un violoncelliste qui expérimente un petit peu sur son instrument, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Moi, j'étais toujours disponible parce que j'adorais ça. Je trouvais ça très intéressant. D'autre part, j'avais eu dans mes professeurs, Reine Flachot surtout, je voudrais la citer, comme ma deuxième professeure. Donc elle était... elle très ouverte à la musique contemporaine, de manière générale à la modernité. Hein. C'était une femme comme ça, qui aussi d'un point de vue technique, elle avait inventé des doigtés un peu particuliers, avec des innovations techniques, un petit peu comme l'était Tortelier aussi un peu à l'époque. Sauf qu'elle, au niveau du langage musical, elle nous encourageait vraiment très tôt à me tourner vers la musique contemporaine. Moi, j'ai appris le concerto de Dutilleux quand j'avais 16 ans, et c'est un concerto qui avait été écrit peu de temps avant. Donc c'était, je crois, dans mes gènes et dans mon tempérament, l'intérêt pour cette musique. C'était vraiment une structure qui me convenait. Idéalement, je crois que, alors on revient quelque part à notre thème d'ouverture qui était le social, la famille, etc. Et l'intercontemporain, il y a ça. C'est une famille, vous risquez pas de vous noyer comme dans un orchestre symphonique. L'intercontemporain, chaque personne, chaque individu est encouragé vraiment à amener sa pierre telle qu'elle est, etc. Avec bien sûr un objectif commun qui est finalement quoi? Qui est le d'être toujours à l'écoute le plus loin possible du langage du compositeur et de lui donner vie. Et ce qui était formidable, c'est que bien sûr il y avait Boulez, bien sûr il y avait Ligeti, il y avait tout ça, mais il y avait un nombre incroyable de compositeurs avec des langages totalement différents, et d'être en contact avec eux au quotidien, de travailler, et puis voilà, des nouvelles partitions qui arrivaient tout le temps, hein, chaque semaine. Et puis le contact, enfin, ça c'est absolument déterminant, avec le compositeur vivant. C'est-à-dire de, parce que c'était un auteur contemporain, Boulez, donc un cadre prestigieux, toutes les œuvres qui étaient jouées, dès que c'était des œuvres de compositeurs vivants, les compositeurs vivants se déplaçaient et venaient assister aux répétitions et nous donner leurs conseils ou leur, nous dire ce dont ils avaient besoin. Et ça, ce rapport dans la création, ce travail main dans la main avec le compositeur dans la création, c'est quelque chose qui a été incroyablement formateur pour moi et que je conseillerais vraiment à tous les jeunes musiciens de faire le plus possible parce que ça vous donne beaucoup, beaucoup d'indications sur ce dont les compositeurs du passé ont besoin aussi. Et ça, ça a été vraiment l'aboutissement de ma formation.
Alors, Pierre Boulez est ressenti comme une personne aussi intransigeante que généreuse. Vous, Jean-Guyen Queyras, comment le décririez-vous ?
Alors, c'est quelqu'un... Bon, on le sait, l'image publique, de par les combats qu'il a dû mener pour faire bouger les choses dans la vie musicale française, ont donné de lui cette image qui est celle du combattant et, dans l'esprit de certains... du combattant sectaire, tout simplement parce qu'il devait remettre en cause certaines choses et qu'il prenait des coups, il les rendait, ça c'est clair. Donc cette image de quelqu'un qui allait uniquement dans une direction, elle vient, je crois, de ses combats. Or, bien sûr, il y a des musiques qu'il n'aimait pas, et c'est ça qui fait qu'il avait du caractère. Il avait ses choix, il n'aimait pas le jazz, il aimait, bon, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Bon, c'était bien entendu quelqu'un qui ne cherchait pas du tout à ce que ses musiciens partagent ses restrictions, j'ai envie de dire, de choix, de goût, etc. Ce à quoi il tenait, et effectivement, on était plus qu'influencé par sa personnalité charismatique, on était effectivement formé quand même, formaté non, mais formé oui, et guidé certainement par une certaine éthique de l'interprétation. C'est-à-dire, moi, ce que je retiens de ses interprétations en tant que chef... c'est une honnêteté, une transparence et une absence, disons, d'affect. On n'étale pas un affect sur la table pour être sûr de toucher la corde sensible ou de, pour être sûr de je ne sais pas quoi, de faire pleurer ou de faire rire, mais on présente quelque chose de manière honnête, de manière claire et à l'auditeur aussi de faire sa construction, de construire son rapport à l'œuvre. Voilà, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, et qui, pour certains répertoires, justement, je ne peux pas dire que je partage, à titre personnel, c'est les choix qu'il faisait dans l'interprétation de tout. Paradoxalement, je vais me jeter à l'eau, Pierre est quelqu'un, voilà, qui je le dis, qui est absolument central dans ma vie de musicien. Je peux dire, par exemple, qu'un répertoire qu'il a fait découvrir en France, et qui lui doit beaucoup, parce que c'est lui, encore une fois, qui a fait bouger les lignes en France à ce moment-là, c'est par exemple la deuxième école de Vienne, sur certaines œuvres, sur certains Webern, par exemple, moi, il me manquait, dans les choix qu'il faisait, une certaine hyper-expressivité qui, je crois, est présente dans cette musique. Mais voilà, c'est mon choix, ça, c'est Jean-Guyen qui dit que, bon, que voilà, que moi, quelque part... ce que fait un Bernstein dans ce répertoire me convient presque mieux. Donc, vous voyez, c'est un pardon. Donc, pour vous dire à quel point j'ai pas été formaté par Boulez. Au-delà de ça, je dirais que dans l'interprétation, il y avait ces règles. Donc, c'est-à-dire l'honnêteté vis-à-vis du texte, donner le meilleur vraiment de soi-même, de tout ce qu'on peut faire avec son instrument, etc. Et à partir de là, je crois qu'il savait, il était heureux de fédérer justement des personnalités fortes. Voilà, c'est-à-dire que il cherchait pas à ce que tout le monde rentre dans le moule. Pas du tout, pas du tout. Et pour ça, je suis vraiment très reconnaissant.
Vous disiez tout à l'heure, Jean-Guyen Queyras, se nourrir d'une certaine façon des compositeurs vivants. Est-ce que c'était aussi une façon de découvrir une forme de liberté dans l'interprétation, c'est-à-dire de se sentir peut-être plus à l'aise pour même revenir au grand répertoire?
Tout à fait. Non, ça a été quelque chose de très important pour moi. Vu mon caractère, j'ai ressenti à la fin de mes études une certaine inhibition vis-à-vis du répertoire, du grand répertoire classique, romantique. Tout simplement par ce sentiment de « Ah, bon, ben voilà, ça y est, tous les grands maîtres ont déjà tout joué. Donc à quoi ça sert qu'on arrive, nous, la jeune génération à l'époque, pour rejouer ça encore une fois de plus ? Enfin voilà, qu'est-ce que ça peut... » Et c'est vrai que c'est ce travail à l'intercontemporain qui, moi, m'a permis de m'affranchir de cette peur et de me rendre compte que on peut, non seulement on peut, mais que justement on doit réinventer à chaque fois qu'on la joue une sonate de Beethoven, une suite de Bach, le répertoire classique. Il faut vraiment le faire revivre sur le moment, on le réinvente. Là, aujourd'hui, maintenant, à cet instant, il faut qu'il y ait un jet, il faut qu'il y ait une dynamique qui se crée, qui est unique et propre à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, le travail avec les compositeurs m'a beaucoup aidé pour ça.
Jean-Guyen Queyras, on voit bien que ces 10 années à l'ensemble intercontemporain ont achevé votre formation, vous ont permis de découvrir de nombreux langages. Pourquoi avez-vous décidé de partir ? Est-ce que c'était par exemple l'envie de jouer différents répertoires ?
Tout ça est venu de manière assez organique. Et pour moi, je pense que c'était bien que ce soit comme ça. Je crois que je n'étais pas... Franchement, s'il fallait choisir, s'il fallait le refaire, à la fin de mes études, choisir entre... passer ces 10 ans à l'intercontemporain et commencer à construire quelque chose petit à petit dans ce cadre-là, etc. Ou bien dire je me lance dans ma carrière de soliste. Clairement, je referai le choix que j'ai fait à l'époque. Et c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un choix, puis c'était une chance aussi. C'est venu comme ça. Bon, voilà. Et vous parlez de la musique de chambre, c'est pareil. Pendant toute ma formation, on a parlé tout à l'heure de Claire Rabier, de mes premières leçons de violoncelle. Mes premières leçons de violoncelle, c'était 3 quarts d'heure de cours avec ma prof et 3 heures d'ensemble de violoncelle. Donc le fait que mon instrument est fait pour le rapport aux autres, pour un lien social, c'était déjà très clairement ancré dedans, c'était clair. Et par la suite, quand j'étais à Lyon, je vous ai parlé des cours de musique de chambre avec Alain Meunier, quand j'étais en Allemagne, pareil, là j'ai découvert la musique de chambre présente partout, j'avais toujours, première chose que je faisais en arrivant quelque part, c'est dire, bon alors avec qui est-ce que je vais faire de la musique de chambre ? C'était évident pour moi, c'était vraiment totalement, ça faisait partie de c'était comme respirer quoi. Donc j'aurais jamais eu l'idée que j'allais simplement faire mon répertoire tout seul dans mon coin, et voilà. Donc, pendant ces années à l'intercontemporain, j'avais heureusement le temps de faire des projets hors intercontemporain. Et c'est là que j'ai commencé à construire des choses avec les liens que j'avais gardés avec mes amis d'Allemagne. Mmh. Avoir un premier quatuor à l'époque, qu'on avait appelé le quatuor Miro, mais voilà, on n'était pas du tout, on n'a pas fait de disques, on n'a pas fait de choses comme ça. C'était vraiment pour le plaisir de jouer de temps en temps. Et puis j'ai commencé à donner des concerts, effectivement, en soliste. Sans doute aussi, il faut le dire, l'exposition que Boulez m'avait procurée lors de ses années à l'intercontemporain, il était extrêmement généreux de ce point de vue-là, et il fait enregistrer le concerto de Ligeti dans cette ce projet magnifique où il y avait le concerto de piano, concerto de violon, concerto de violoncelle pour Deutsche Grammophon. Donc c'était vraiment des choses assez extraordinaires. Il m'a fait jouer en tournée des pièces solistes de Berlioz, etc. Pour la première fois, effectivement, j'étais sur les scènes parisiennes de manière solistique. Et puis après, c'est venu là aussi encore une fois de manière organique. C'est-à-dire petit à petit, il y a tel projet, tel orchestre qui vous engage. Peut-être plus au départ pour du répertoire contemporain. Et puis après, il y avait de plus en plus de concerts et il fallait faire un choix. Effectivement, le cadre de l'intercontemporain devenait difficile à combiner avec cette carrière solistique qui prenait un petit peu son envol. Donc j'ai fait le choix d'avancer, d'aller vers autre chose. Alors, est-ce que c'était... Oui, je pense que c'était d'une part, effectivement, la possibilité de développer un peu plus ses activités solistiques, plus diversifiées. Et puis, je crois aussi tout simplement que 10 ans, c'était bien. Voilà, c'était un épisode, c'était un épisode fort, un épisode central dans ma vie. Mais c'était bien. Et je me souviens d'ailleurs quand j'en ai parlé à Boulez, pour lui dire que j'envisageais de quitter l'ensemble, il était totalement compréhensif. Et il m'a dit... Mais tout à fait, Jean-Guy. Je crois que d'ailleurs que si tu ne pars pas maintenant, tu partiras jamais. Et en fait, ça lui semblait une bonne chose que à ce stade, que je prenne mon envol. Et voilà, il m'a entièrement soutenu. Et ça montre aussi sa générosité. C'est après que j'ai quitté l'ensemble, je sais plus, 2 ans après, je crois, qu'il m'a offert un prix prestigieux, parce qu'il lui a été remis un prix extrêmement prestigieux qui est remis tous les 3 ou 4 ans, je crois, qui s'appelle le prix Glenn Gould au Canada, qui est donné à des très grandes personnalités de la musique. Donc voilà, et là il était remis à Pierre Boulez, et à chaque fois chacun de ces récipiendaires choisit Adoub, un jeune, et donc Pierre Boulez m'a fait cet honneur. Et ça c'était voilà, après que j'ai quitté son ensemble, après que j'ai pris mon envol. Et donc là, la création du quatuor Arcanto, c'est encore un petit peu après. C'est vrai que ça s'est bien agencé. Et sans doute que si j'avais encore été à l'intercontemporain à l'époque, ça aurait été difficile. Parce que avec le calendrier de l'ensemble, vous savez, de réunir 4 personnes qui ont des activités très diverses et puis de se voir régulièrement en quatuor, c'est très compliqué. Donc je crois que c'était important que j'ai quitté l'intercontemporain à l'époque.
Le scherzo du quintet à cordes en ut majeur, Deutsch 956 de Franz Schubert par le quatuor Arcanto et Olivier Maron au violoncelle. Grand entretien avec Jean-Guyen Queyras, chapitre 3, c'est terminé. La suite demain à 13h, évidemment. Merci à Céline Tranouval et Mathieu Benoît pour la préparation, Gilles Blanchard pour la réalisation, Yves Lehors à la technique et Éric Boisset au mixage. Toutes les informations, podcasts et réécoutes, c'est sur francemusique.fr. À demain.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.